Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Alors on va partir pour cette chevauchée radiophonique de 25 minutes. Alors, on va parler des Indiens Sioux, en sachant que Sioux, en fait, c'est pas vraiment gentil, c'est le nom que leur ont affublé une tribu rivale et qui veut dire petit serpent, parce que c'est ces Indiens Sioux, alors qu'ils s'appelaient eux Dakota, hein, c'était le nom de leur tribu. Ben c'était des combattants de guérilla extraordinaires et généralement on les voyait quand on avait pris les premiers coups de hache ou de bâton sur la tête. Voilà, donc petit serpent qu'on voit pas et paf, qui agit sans qu'on ait plus repéré. Alors donc absent du continent américain depuis des millénaires, le cheval, donc puisque c'est quand même le sujet de l'émission, est réintroduit par les Espagnols au cours du XVIe siècle. D'abord considéré par les Amérindiens comme un simple gibier, ces derniers comprennent vite évidemment le parti qu'ils peuvent tirer de l'animal. Et c'est ainsi que le cheval devient vite la principale richesse des tribus, l'animal est objet de convoitise et l'importance d'une tribu se mesure désormais au nombre de chevaux qu'elle possède. Pour les Indiens, donc, pas d'étalon or, pas encore de dollars, mais un seul étalon qu'on pourrait appeler, je sais pas moi, l'étalon canasson. On reprend alors les rapines, les guerres fréquentes que les tribus se... On comprend, pardon, les rapines et les guerres fréquentes que les tribus se livrent entre elles. La perte de ces chevaux signifie l'affaiblissement de la tribu. Et le seul moyen d'y remédier consiste à organiser tout simplement des expéditions de pillage dans les tribus voisines. On va piquer chez les voisins ce qu'on n'a plus. Alors, le 29 décembre 90, donc la fin du 19e siècle, le massacre par la cavalerie américaine de plus de 300 Indiens à Wooden Knee dans le Dakota du Sud prend pour prétexte le fait que plusieurs tribus indiennes s'étaient rassemblées pour organiser une grande danse du soleil. Pour les Indiens des nations Sioux d'Amérique du Nord, cette danse est sacrée. Elle permet au peuple de se mettre en relation avec ce que les chamans appellent les esprits du monde. Alors d'abord, on va commencer par quelques mots pour décrire la métaphysique et la spiritualité des Indiens d'Amérique du Nord dans la seconde moitié du 19e siècle. Donc, depuis déjà deux siècles, leur mode de vie traditionnel a été profondément bouleversé par la colonisation européenne. Les terres indiennes ont été attribuées aux émigrants. Le gouvernement américain de l'époque met en place une politique d'extermination des troupeaux de bisons. Alors ça a été vraiment fait intentionnellement dans le but délibéré de rendre les Indiens dépendants de la nourriture que les bureaux des affaires indiennes, donc américaines, voulaient bien leur fournir. Alors il faut voir que c'était une nourriture qui était, dans le meilleur des cas, de très mauvaise qualité, souvent insuffisante et même parfois carrément empoisonnée, ce qui permettait de régler le problème encore un peu plus rapidement. Donc les épidémies deviennent fréquentes, les tribus sont décimées et il y a aussi un autre facteur qui était les microbes introduits par les Blancs et auxquels le système immunitaire indien n'était pas habitué. Et là aussi, c'est une véritable hécatombe à cause en particulier de la variole, de la syphilis qui décime les populations indiennes. Alors au mépris de tous les traités signés avec les autorités américaines, les Indiens finissent par être déportés dans des réserves souvent très éloignées de leur territoire d'origine. Et dans les années 1880, les Indiens désespérés vont alors tenter de retrouver leur identité dans ce que les ethnologues appelleront le grand rêve messianique. Pour eux, la seule vie possible pour les Indiens n'est plus de rechercher sur la terre comme auparavant, mais dans un troisième monde, le monde tutélaire des ancêtres. Ils se disent, la terre c'est un peu râpé, pensons à aller ailleurs. Et alors, on va voir un petit peu comment ils ont la conception du monde, ces Indiens. Pour eux, ils l'imaginent comme trois disques reliés entre eux, ces trois disques, par un axe unique et central. Alors, il y a le disque inférieur, qui est celui du monde souterrain, première demeure des hommes et des animaux. Et puis, le disque médian, en fait, le second un peu plus haut, qui est celui de la Terre, où se sont effectivement installés, alors, selon la formule indienne, tous ceux qui marchent sur deux jambes, à quatre pattes, qui volent et qui nagent, et guidés par l'aigle tacheté qui est une variété d'aigle qui compte énormément pour la mythologie, dans la mythologie indienne. Et le troisième disque est celui du ciel, donc le supérieur, dans lequel se trouve l'esprit du monde que les Sioux nomment du reste Wakantanka, dans les westerns, ce qu'on appelle le grand Manitou. Voilà. Et c'est là que résident les esprits des ancêtres qui peuvent aussi bien être des hommes, des animaux, mais également des rivières, des montagnes, des arbres, en fait, la totalité des différents éléments qui compose le monde. Alors, pour les Indiens, l'accès du monde du ciel est possible par le biais de vision. Et ça, c'est très très important. Ils considèrent en effet que l'homme est constitué d'un corps matériel, terrestre et d'un esprit. Et lors d'une vision, le corps reste sur la terre, tandis que l'esprit peut voyager du monde terrestre au monde céleste à la rencontre de ses ancêtres. C'est cette expérience singulière que le chef chaman Siu Oglala Elan Noir a eu vers le milieu du 19e siècle et que le messager du cheval veut vous conter aujourd'hui. Alors, Elan Noir a 5 ans. Muni de l'arc que lui a fabriqué son grand-père, il part un jour chasser accompagné d'un poney. Ils étaient précoces quand même à 5 ans. Il se tire avec son poney et son arc. Un orage se prépare. Il aperçoit un oiseau posé sur une branche. Il se dispose à le tirer quand l'oiseau se met à lui parler et lui dit, alors que dit l'oiseau, partout les nuages se tiennent de côté, écoute, une voix t'appelle. C'est important la voix. La voix pour les Indiens, une voix qui appelle, et généralement transmise par un animal. Et Elan Noir regarde alors les nuages et en voit sortir deux hommes qui plongent vers la terre comme des flèches, la tête en avant. Et ces deux-là chantent, écoute, une voix sacrée t'appelle, par tout le ciel, une voix sacrée t'appelle. Arrivés près de lui, ils se transforment en noix et disparaissent. À ce moment-là, un grand vent se lève et la pluie se met à tomber, accompagnée de grondements du tonnerre. Les années passent. Elan Noir, qui n'a jamais parlé de sa vision à personne, parce qu'il en est un peu honteux, en fait, il se demande, ils vont me prendre pour un cinglé. Bon, donc il n'en parle à personne. Et en fait, il a quasiment oublié cette vision et il a maintenant 9 ans. Et c'est désormais un bon chasseur et un guerrier respecté dans sa tribu. Enfin, tout va bien. Mais un soir, tandis qu'il mange sous la tente d'un ami, il entend à nouveau une voix qui lui annonce. Alors la voix dit « Le temps est venu maintenant, il t'appelle » et elle devient un peu plus insistante. Et le lendemain, Elan Noir tombe gravement malade. Alors il a ses jambes et son visage qui enflent considérablement, il ne peut plus se tenir debout. Et il voit à nouveau deux hommes qui descendent des nuages, la tête en bas, s'installent près de lui, le regardent et lui disent « Dépêche-toi, viens, tes grands frères, esprit t'appellent ». Le message transmis par les deux hommes donc repartent dans les airs comme deux flèches échappées d'un arc. Et là, Elan Noir sombre dans le coma. Alors on va s'accorder maintenant une petite pause musicale avec Zachary Richard. Cap enragé.
La peau, il fouette les flancs et glace l'âme de mon bateau. La marée à la barre, j'entends ta voix, j'entends tes mots. Chaque fois que le tonnerre me frappe de son écho. Au large du cap enragé, au large de tout ce que j'ai perdu, tout ce que j'ai sauvé. Peut-être que j'étais beaucoup trop loin pour empêcher mon pauvre bateau de prendre l'eau et de couler.
Je t'ai aimé.
Alors nous avons laissé Élan Noir dans le coma, inerte, et il est veillé par ses parents. Alors on va suivre, en imagination bien sûr, son esprit qui part à la rencontre de ses ancêtres dans le troisième monde, donc le fameux monde du ciel comme on vient de le voir. Alors il est accueilli par un cheval bai qui va être son guide tout au long de ce voyage initiatique. Et l'animal lui dit « Regarde tes ancêtres, regarde-les, il faut que tu connaisses leur histoire ». Alors devant lui, à l'ouest, se tiennent 12 chevaux noirs avec des colliers de sabots de bison autour du cou. Alors c'est très important les points cardinaux hein, pour les Indiens et pour les Amérindiens en général. Leur crinière donc de ces chevaux noirs lance des éclairs et le tonnerre est dans leurs naseaux. Donc ils sont vraiment très excités. Au nord, 12 chevaux blancs dont les crinières flottent comme un grand vent et tout autour d'eux s'envolent et tournoient les oies blanches. Tiens, on les retrouve ces oies blanches qui sont aussi des animaux messagers. À l'est, 12 chevaux alezans avec des colliers de dents des landes, les yeux luisants comme l'étoile de l'aube. Et enfin au sud, 12 chevaux fauves avec des cornes sur la tête et des crinières qui vivent et croissent comme les herbes et les arbres. Le cheval bai, donc celui qui l'a accueilli, Élan Noir, en premier lui parle une dernière fois pour lui confier les 4 pouvoirs qui feront refleurir l'arbre sacré de la nation, effectivement, parce qu'on est en pleine conquête et les Indiens commencent à être baladés à droite et à gauche et un petit peu quand même exterminés aussi. Alors, ce cheval dit à Élan Noir, vois comme tous ces chevaux se mettent à danser. Les chevaux noirs de l'Ouest te donnent l'eau qui fait vivre et l'arc et les flèches pour détruire. Donc l'eau, la vie, et l'arc et les flèches, la mort. Les chevaux alezans de l'Est te donnent la pipe sacrée et la puissance de la paix, la fameuse pipe des Indiens du Nord des États-Unis, qu'on appelle le calumet. Et les chevaux blancs du Nord te donnent l'aile blanche du géant glacé qui purifie. Le froid, évidemment, et la plante sacrée qui est la sauge. Alors là aussi, la sauge fait partie d'un élément important dans la mythologie et dans les croyances indiennes. Et les chevaux fauves du sud disent enfin, nous te donnons cette baguette fleurie, plante-la au centre de ta nation, elle la fera refleurir. Alors, quand Élan Noir sort de son coma, il lui semble voir son village au loin. Alors, il presse le pas pour le rejoindre. Il veut rentrer chez lui et toujours, un aigle tacheté l'accompagne, volant au-dessus, donc voilà. Il pénètre enfin sous le tipi de ses parents et les voit penchés sur un garçon malade. Il rentre, il voit un garçon malade allongé, inconscient. Et c'est là qu'il se rend compte que ce garçon allongé, c'est lui-même. C'est-à-dire que Élan Noir revient dans sa propre peau après s'être transformé en quelque sorte en esprit. Et il dit, tandis que j'entrais, quelqu'un a conseillé, regardez, le garçon revient à lui, il faut lui donner de l'eau. Une période affreuse commence pour Élan Noir, sa grande vision le hante. Il redoute l'arrivée d'un nuage de l'orage. Là, il a peur de tout. Il part seul avec son cheval, loin de chez lui, jusqu'à tomber d'épuisement. Il se saoule de fatigue. Et en permanence, les voix des esprits lui rappellent « Élan Noir, Élan Noir, il est temps, il est temps !» Les années passent. Le jeune homme a maintenant 17 ans, inquiet de son état psychique toujours perturbé. Les parents d'Élan Noir font appel à Black Road, Route Noire, donc un vieux médecin Sioux. Il observe longuement le jeune homme et finit par lui dire « Mon neveu, je vois d'où vient ton trouble. Tu dois faire ce que le cheval bai de ta vision voulait que tu fasses, la réaliser sur terre pour ton peuple. Alors la peur te quittera, il faut préparer la danse du cheval. » Les Oglala, donc la tribu des Élan Noir, font appel à un très vieux sage, Bear Sings, qui veut dire « ours qui chante », et avec l'aide de Route Noire, celui-ci dresse une tente sacrée en peau de bison sur lequel les deux peignent les images de la vision des Élan Noir. Sur le côté ouest de la tente, il représente un arc et une coupe d'eau. Au nord, des oies blanches et la sauge sacré, à l'est l'étoile de l'aube et la pipe, au sud enfin la baguette fleurie et le cercle de la nation. Il peigne sur la porte de son tipi des chevaux, des élans et des bisons, ainsi qu'un arc-en-ciel flamboyant. Et il demande à Élan Noir de jeûner, puis de se purifier en se frictionnant avec quoi ? Eh bien avec un bouquet de sauge. Les compagnons d'Élan Noir rassemblent alors 4 chevaux noirs, 4 blancs, 4 alezans, 4 fauves, ainsi qu'un cheval bai qui lui est destiné. On revient toujours sur ces mêmes nombres de chevaux. Donc eux aussi sont peints d'éclairs, rouge pour le bai, un aigle tacheté avec des ailes déployées. Et Élan Noir, lui, est peint entièrement en rouge avec des éclairs noirs qui sont dessinés sur ses bras et ses jambes. Et il porte également un masque noir et une plume d'aigle sur le front, donc tout est prêt, la danse peut commencer. Alors, six vieux hommes entonnent le chant sacré qu'Élan Noir a entendu au cours de sa vision et qu'il leur a transmis. Et ce chant dit, une nation de chevaux va apparaître, une nation d'oies, regardez, une nation de bisons va apparaître, une nation d'élans et la nation des aigles, puissiez-vous les voir. Six tambours accompagnent ce chant, quatre jeunes filles sont également présentes et elles symbolisent la vie de la nation. Toutes et tous se tiennent au centre du cercle formé par les quatre groupes de chevaux placés de front, les chevaux noirs tournés vers l'ouest, les alezans vers l'est, les blancs vers le nord et enfin les fauves vers le sud. Quand là, on est encore toujours dans la même configuration. Et pendant les premiers chants, les chevaux commencent à s'agiter, piaf, ne tiennent pas en place. Et une chose, mais vraiment étrange, arrive, et il y avait des observateurs blancs qui l'ont constaté lors d'un second chant sacré. Il dit, au centre de la terre, regardez un cheval. Le bédélan noir dresse les oreilles et hennit longuement. Un phénomène étrange, donc, tous les chevaux du village se mettent à hennir à leur tour, ainsi que ceux qui paissent dans les tribus alentours. Un peu comme s'ils avaient voulu répondre à l'étalon bédélan noir. Donc à cet instant, Élan Noir revoit sa vision aussi claire et brillante que lors de son coma. Il prend alors conscience que la réalité du monde, et ça c'est important, est celle qu'il a découvert au cours de sa vision, et que la Terre n'en est que l'ombre. C'est-à-dire qu'en réalité, la Terre, c'est l'illusion, et la réalité, c'est l'autre monde. Et à la fin de sa vie, Élan Noir confie à son biographe John Nehart, un Américain des premiers qui s'était dit quand même que les Indiens, c'était pas simplement des sauvages, et donc il a recueilli les mémoires d'Élan Noir. Alors, Élan Noir dit, il y a tant à vous apprendre. Ce que je sais me fut donné pour les hommes. Cela est véritable et cela est beau. Bientôt je serai sous terre et ce sera perdu. Grand esprit, mon grand-père, tu m'as donné des pouvoirs trop forts que je n'ai pas pu utiliser pour mon peuple. Tu me vois ici, je ne suis qu'un vieil homme pitoyable, je n'ai rien fait. L'arbre de ma nation s'est desséché, il se pourrait qu'une petite racine vive encore, nourris-la pour que reviennent les feuilles, les fleurs et les oiseaux. Écoute-moi, non pour moi-même, mais pour mon peuple. Et ça, ça a été véritablement une fin de vie épouvantable pour Élan Noir qui s'est dit, j'avais eu des pouvoirs, j'avais eu des visions, mais j'ai pas été capable de les utiliser pour mon peuple. Alors, à lire pour en savoir plus, Élan Noir ou la vie d'un saint homme déçu au Glala, relaté par John Nehart, donc, et c'est chez Stock. L'art des Indiens d'Amérique de Nigel Cawthorn aux éditions Solar pour la version française. Pidgin, chronique de la mort lente des Indiens pieds noirs du Montana de Richard Lancaster dans la collection Terre humaine chez Plon, Le chamanisme du philosophe et anthropologue Mircea Eliade aux éditions Payot dans la collection Payot et dans le numéro 358 du magazine Géo, un très beau sujet, ce qui est l'héritage perdu des enfants Sioux. Alors, le dicton de la semaine, et ben justement, il est d'un Sioux Lakota, donc le même peuple que Élan Noir, et c'est un homme qui le dit, qui s'appelle en anglais Limdir, qui veut dire d'un boiteux, et donc ce Limdir dit: l'Indien marche auprès de sa vision, l'homme blanc court après les dollars. Nous arrivons donc au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h, sur CFM Villefranche-de-Rouer 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.